CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio. CFAQ vous présente le condensé juridique. Un condensé du meilleur des chroniques de vulgarisation juridique présentées par les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit, diffusé dans le show du retour.
Le Touski!
Le condensé juridique, l'émission parfaite pour connaître et comprendre vos droits. CFAQ 88.3, l'essence de l'information.
Salut tout le monde, je m'appelle Marie-Lou Morin-Denis et je suis accompagnée de Maxime Vergada.
Allô.
Deux étudiantes en troisième année en droit et on est ici en fait pour vous donner un petit podcast sur le droit du travail. Donc juste pour faire une petite introduction, on tient à vous dire que la présente capsule ne contient aucun conseil juridique. Ça a été préparé en fait par nous, cette capsule-là. On est des étudiantes en droit qui sont bénévoles de la section pro bono de l'Université de Sherbrooke et on n'est pas des avocats, donc on n'a vraiment pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. C'est juste une présentation générale de certaines questions juridiques qu'on va vous exposer aujourd'hui. Et si vous avez besoin spécifiquement de conseils juridiques, on vous conseille à ce moment-là de consulter directement un avocat ou une avocate.
Oui, alors la première capsule qu'on va traiter aujourd'hui, ça concerne les caractéristiques du contrat de travail. Donc, le contrat de travail, ça comporte trois caractéristiques. Donc, la prestation de travail, le lien de subordination et puis la rémunération. En ce qui a trait à la prestation de travail, par l'expression « prestation de travail », justement, on fait référence aux tâches qui sont requises par l'employeur. On peut pas deviner ce que l'employeur attend de nous, évidemment. Cela doit être inscrit dans le contrat de travail ou encore donné verbalement ou par écrit par un représentant d'employeur, par exemple. Ces dernières doivent cependant être plus ou moins précises et un délai peut en être assorti. Le délai peut être, par exemple, toute la durée du contrat ou ça peut être limité. Par exemple, une tâche d'un commis de plancher d'une épicerie pourrait être qu'avant l'ouverture de l'épicerie, il place les livraisons qui sont arrivées, justement, puis les classe par date d'expiration en plaçant les produits qui vont périmer plus vite et les nouveaux, justement, en arrière de ces derniers. L'employeur ne peut pas accepter une prestation autre que celle requise, à moins qu'il y ait un danger anormal, justement, pour la santé et la sécurité, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, par exemple, si le commis de plancher décide en même temps, je vais décider d'aller travailler à la poissonnerie, aider mon collègue, et puis, telle personne a besoin d'aide à la caisse, fait que pourquoi pas, je vais l'aider à la caisse, son employeur, il a pas accepté ça. T'sais, sa prestation de travail, c'est vraiment être commis à l'épicerie, sur le plancher, donc vraiment placer les produits. Donc, il pourrait pas comme décider, je vais aller travailler là, je vais aller aider telle personne. Donc, sa prestation de travail, c'est vraiment être commis plancher. Puis c'est ça. Donc, l'employeur a pas besoin d'accepter, il peut ne pas accepter une prestation qui est autre que celle qui est inscrite dans le contrat de travail. Puis ce concept-là, ça s'applique également à un travail mal fait. Donc, si le commis de plancher, il est là puis il fait vraiment mal son travail, il pitche les produits dans des où c'est même pas censé être nécessairement, ben là, c'est sûr que la prestation est mal faite, le travail est mal fait, la tâche. Donc, dans le fond, l'employeur peut décider tout simplement de pas l'accepter.
Exactement. Donc, tout le monde sait également les appellations, si on peut dire, qu'on peut travailler à temps plein ou à temps partiel. Donc, tout dépendamment, bien sûr, du secteur d'entreprise pour lequel on travaille. Donc, si, admettons, on travaille 40 heures semaine, tout dépendamment de quelle entreprise on est, on peut être qualifié de temps plein versus quelqu'un qui travaille de 10 heures par semaine. Ça, c'est souvent la communauté étudiante que nous sommes qui va plus rentrer dans ces critères-là, c'est-à-dire le critère comme qui est plus qualifié de temps partiel selon la situation, bien sûr. Donc, ça, c'est par rapport aux heures et temps plein, temps partiel, on va plus en parler particulièrement dans une prochaine capsule où on va vraiment parler des normes de travail. Ça, vous allez vraiment nous entendre souvent parler des normes de travail. C'est quelque chose qui est récurrent, qu'on va souvent ramener et justement qu'on va pouvoir plus amplement développer par rapport au temps plein et au temps partiel. Donc, là, Max, tu nous as parlé des prestations de travail qui étaient une des caractéristiques du contrat de travail. Moi, en fait, je vais parler de la deuxième caractéristique qui est le lien de subordination. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à lien de subordination? Cette expression-là fait référence à une certaine relation verticale, si je peux dire. En fait, l'employeur étant au-dessus, donc en position d'autorité face aux travailleurs. Donc, comme on l'a mentionné dans la première caractéristique, l'employeur est en haut dans la relation verticale et c'est lui qui va vraiment dicter ce qu'il attend de son employé. Donc, ce lien de subordination-là implique un certain pouvoir qui lui sont nécessairement reliés au contrat de travail entre l'employeur et l'employé. Donc, par exemple, l'employeur a le droit de donner des ordres. Donc, si tu travailles dans un magasin de chaussures, admettons, et qu'il te demande de faire l'inventaire parce que c'est dans tes tâches de le faire, ben c'est clair qu'il a le droit de le faire. C'est clair qu'il a le droit de te demander de faire quelque chose qui fait partie de ton contrat de travail. C'est son rôle, c'est son pouvoir en tant qu'employeur de te dicter des ordres, bien sûr, dans certaines limites. Donc, puis ça, il est arrivé aussi une situation que Max, tu m'avais parlé l'autre fois, là. Ça m'a vraiment comme marqué un peu. Là, il est arrivé qu'il y a une fille qui travaillait comme commis à une boulangerie. Puis, c'est dans son contrat de travail, c'était vraiment marqué ça, commis à la boulangerie. Ouais, c'était marqué, c'est ça, là. Donc, et là, à un moment, l'employeur, il a demandé d'aller faire une livraison dans une autre boulangerie. Puis ça, c'était vraiment pas marqué à son contrat de travail. Donc, tu sais, son contrat de travail, il prévoyait vraiment sa prestation en tant que commis à la boulangerie. Donc, tu sais, elle faisait le pain, elle vendait, elle était vraiment pas livreuse, là, puis elle se chargeait vraiment pas comme de tout ce qui est par rapport à la voiture, puis de cette partie-là de la boulangerie. Donc, étant donné que c'était pas dans ses tâches, cet ordre-là dépassait les pouvoirs de... En fait, le pouvoir que l'employeur avait, il avait vraiment... pas le droit de faire ça. Donc, ça fait partie des choses que l'employeur a pas le droit de faire. Mais pour les autres choses qu'il a le droit de faire, en fait, l'employeur peut, dans ses pouvoirs, déterminer l'horaire de travail. Il peut également contrôler les absences, forcer la présence sur les lieux du travail. Donc, si t'es pas là, que ton cadran a pas sonné, ben crée-moi qu'il va t'appeler puis que tu vas te pointer. Contrôler la qualité du travail. Donc, si admettons t'es boss boy ou t'es serveuse et que tu laves mal la table, ben ton employeur il a pertinemment le droit de te demander de la relaver parce que dans un restaurant et tout ça, on aime que, en fait, les employeurs aiment bien que les tables soient propres. Donc, comme on va voir, il existe certaines limites à l'exercice de ce pouvoir-là par l'employeur et qui peuvent découler du contrat de travail ou même provenir de loi.
Ça, c'était pour la deuxième caractéristique du contrat de travail. La troisième, tout attendu, c'est la rémunération. C'est la caractéristique que tout le monde aime. On peut la définir comme étant le prix versé à quelqu'un en nature ou en l'espèce pour un travail exécuté. C'est quelque chose qu'on reçoit pour le travail qu'on a fait, dans le fond. Je suis certaine qu'avec les nombreux emplois que vous avez occupés, vous avez remarqué que la rémunération peut prendre plusieurs formes. Donc, en effet, une personne pourrait être rémunérée à l'acte. Par exemple, des tatoueurs, des plombiers, ils s'en viennent, oh, j'ai un problème de tuyau, ils s'en viennent faire le travail, on le paye, donc c'est vraiment payé à l'acte. Ça peut être également au rendement. Donc, par exemple, des vendeurs de voitures, des vendeurs à commission, tu sais, plus on vend de voitures, plus on va se faire du cash. Sinon, ça peut être également partout horaire, donc caissier, réceptionniste, animateur de camp de jour ou au salaire fixe, par exemple, un animateur de camp de vacances qui est logé, nourri. Ça va être, exemple, 5 000 $ d'une shot après l'été. Et ça peut être également enseignement au primaire et au secondaire qui constitue un bon exemple pour ce qui en est du salaire fixe. Il est important de comprendre que le terme rémunération, ça ne veut pas dire forcément salaire. C'est une notion qui est vraiment plus large que la notion de salaire. Donc, par exemple, le terme rémunération, ça peut notamment inclure le droit à des actions d'une compagnie, des rabais employés ou bénéficier de certains avantages, à titre d'exemple, se faire payer son loyer, exemple. En effet, il est possible qu'un employeur accorde certains avantages à ses employés. Donc, ces derniers peuvent entrer dans le concept de rémunération, mais non à celle du salaire. C'est ça la petite nuance qu'il faut faire dans le fond. Exemple, je suis concierge dans un hôtel. Mon patron me permet de me nourrir au restaurant de l'hôtel gratuitement et d'y dormir quand ça m'adonne. Par exemple, j'habite loin, puis des fois, bon, ça termine que je termine tard le travail en tant que concierge, mais je peux décider, exemple, mon employeur il me dit « Hey, tu peux, il y a une chambre pour toi, tu peux rester dormir là. » Mais tu sais, j'habite pas là on a regular basis. Là. C'est pas là que j'habite en théorie, mais je peux y rester. Puis, exemple, je suis concierge, je travaille aussi à salaire horaire. Il peut compter ces avantages-là, donc rester, se nourrir à l'hôtel comme la rémunération, mais il peut pas les déduire de mon salaire.
Mais là, Max, est-ce que genre l'employeur il pourrait comme directement ne pas me payer étant donné qu'il me donne plein d'avantages? Parce que, tu sais, je veux dire, je travaille à cette place-là, je mange, je m'entraîne, je dors là une fois de temps en temps et tout ça. gratuitement là, donc
je t'écoute
plus tard là.
Je t'écoute, mais OK, mais tu fais quoi ton épicerie? L'éducation de tes enfants, les médicaments, si t'es malade. C'est ça. Donc, si je payais un salaire minimum de 13 et 10 $ de l'heure, mon employeur va pas pouvoir me décider de me payer 10 $ ou juste pas me payer à cause de ces avantages-là. Mon salaire devrait respecter le salaire minimum ou prévoir plus, tout dépendant des circonstances.
OK.
Puis c'est ça. Aussi important de se comprendre également, plus généralement au contrat de travail, que ça n'impose aucune formalité, en ce sens qu'un travail, un contrat de travail, pardon, peut être écrit comme être verbal également. Donc, c'est ce qui complète notre première capsule pour le contrat de travail en ce qui concerne les caractéristiques. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis on vous voit à la prochaine capsule.
À la prochaine capsule.
C'est aussi simple que ça. Moi, la seule affaire que je vous demande...
C'est moi la seule affaire que tu demandes.
Attends, j'ai pas fini de parler. Quand on m'a approché pour faire ce projet-là, moi, j'ai embarqué parce que j'avais une idée. Après ça, moi, je savais pas que vous étiez pas capable de suivre cette idée-là.
Bon, ben, c'est correct.
Parce que, tu sais, mettons, tu t'en vas à quelque part, ça sert à quelque chose de te rendre jusqu'à là-bas ou ça sert à quelque chose de pas y aller?
Mais ça sert à rien d'y aller,
si on pas y aller. Mais oui, je sais pas, vous allez vas-y.
Vous savez pas, moi, je vais.
Tu sais, tu m'as dit que j'ai mis
Donc, pour la capsule 2, on va vous parler de la durée du contrat. Donc, pour commencer, un contrat, ça peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Donc, quand je dis ça de même, à première vue, ça sonne vraiment très, très simple et facile à comprendre. Malheureusement, Max, tu vas être d'accord avec moi
que c'est pas le cas.
Donc, quand je dis un contrat à durée déterminée, c'est qu'on veut dire une durée certaine. Ce qu'on veut dire par certaine, c'est que le contrat va inscrire une date de début et une date de fin. Comme ça va être vraiment marqué clairement au contrat. Le contrat à durée déterminée doit donc contenir une échéance. Là, c'est vraiment comme un laps de temps qui va être prévu, une fin de la relation de travail entre l'employeur et l'employé. Et il faut que ce soit très, très clair entre les parties. Et justement, quand on veut que ce soit clair, dans un contrat, on veut que ce soit par écrit, par exemple. Donc, ce type de contrat-là, il est généralement utilisé pour réaliser les objectifs précis qui va durer pour un temps précis. Donc, par exemple, un magasin qui engage des employés spécifiquement pour la période des fêtes, parce que c'est pas mal plus agendé à ce moment-là de l'année, il va être inscrit au travail, au contrat de travail, pardon, que celui-ci va durer comme du 1er décembre au 15 janvier, par exemple.
Cependant, c'est pas si simple que ça. Il importe d'analyser l'ensemble du contrat.
Yep.
Je l'ai mis en caractère gros, puis en majuscule.
La couleur, là.
Parce que c'est justement, afin de déterminer, c'est vraiment à durée déterminée ou à durée indéterminée, bien qu'il comporte une date de fin, par exemple. Par contre, il n'est pas nécessaire que le contrat comporte une date de fin pour être considéré comme à durée déterminée. Par exemple, il peut s'agir d'un événement qui va certainement survenir. Par exemple, si je suis correctrice d'examen pour un professeur, il n'est pas nécessaire d'inscrire une date de fin à le contrat. Seule la mention de la fin de la correction des examens, c'est suffisant pour que ça constitue un contrat de travail à durée déterminée. Lorsque je vais avoir fini de corriger les examens, le contrat de travail va être terminé et la relation de travail également.
Mm-hmm.
Si jamais, comme, si on me rappelle pas, exemple, pour continuer à corriger des examens. Par contre, c'est ça, comme je viens de dire, il est possible que le professeur me redemande de corriger la session d'après, ce qui ouvre la porte à la continuation de ma relation d'emploi avec lui, ce que là, on va considérer comme un contrat de travail à durée indéterminée. Donc, c'est vraiment comme une question de nuance. Puis c'est là, justement, c'est ici que ça se casse.
Yep.
En effet, il faut se poser la question à savoir si l'employeur et l'employé voulaient vraiment mettre fin à leur relation de travail ou mettre fin au contrat, mais tout de même garder une relation de travail. Exemple, je peux mettre fin au contrat. Je travaille au SAMUNS pendant ma session, puis je travaille trop d'heures. J'ai demandé 10 heures, puis non 20. Puis là, mon employeur me donne tout le temps 20 heures. Je peux décider de mettre fin à mon contrat de travail, mais quand même mentionner à mon employeur que je désire revenir pour la session des fêtes, car je sais très bien que c'est plus à se lander, puis là, je vais me faire de l'argent, puis je me rends disponible. Donc, le contrat que j'ai signé est indéterminé. Il est à durée indéterminée, même si, comme j'ai mis fin, etc., car la relation de travail n'est pas encore finie. C'est seulement le contrat de travail qui est fini. Parce que c'est clair pour moi puis mon employeur que je suis prête à revenir. Ainsi, la relation de travail demeure. On est essentiellement dans un contrat de durée indéterminée. Un autre exemple classique de situation de contrat à durée indéterminée, c'est que je suis animatrice d'un camp de jour pour ma municipalité. Je viens de terminer mon emploi. En fait, c'est une situation qui est arrivée à moi, puis c'est une situation, je suis sûre, qui est arrivée à plusieurs. Je viens de terminer mon emploi, exemple, en 2020, puis ça fait 3 ans que je travaille au camp de jour. Puis mon employeur, à chaque année, me redemande « Hey Max, est-ce que tu prévois revenir l'année prochaine? » Je dis « Ben oui, pas de trouble. Fais juste m'envoyer un courriel à cet effet-là. » Il m'envoie un courriel comme de fait, puis il me dit « Ah, oh, by the way, on reprend les anciens employés de l'année dernière, tu veux toujours faire partie du travail, etc. » Donc, même si j'ai terminé, exemple, le 25 août de l'année dernière, une date précise, comme on l'a dit, ça se peut que mon employeur va encore me reconsidérer pour travailler l'année prochaine, puis là, la relation de travail est pas terminée, est encore là, est existante, même si ça va faire comme toute l'année scolaire que j'ai pas travaillé au camp de jour puis que la date était précise, ça constitue tout de même un contrat à durée indéterminée parce qu'il y a une relation de travail qui est maintenue. S'il existe une clause dans le contrat qui permet à moi ou à mon employeur, par exemple, d'y mettre fin, ça arrive beaucoup, pas nécessairement comme au camp de jour, mais je sais pas, dans une affaire, j'ai pas d'exemple en particulier, mais souvent ça arrive dans un contrat où on dit comme par le consentement des parties, exemple, l'employeur puis l'employé, on peut mettre fin au travail ou même ça peut être une fin unilatérale, exemple, que ce soit juste l'employeur qui décide d'y mettre fin. Donc ça se peut que ce soit dans un contrat de travail. Dans ce temps-là, c'est un indice que mon contrat de travail n'est pas à durée déterminée, mais indéterminé. Par exemple, il est écrit sur le contrat qu'on termine le 26 août, je reprends la même date dedans, mais il est écrit qu'on termine le 26 août, mais que sur le contrat de travail, il est inscrit qu'on peut y mettre fin, qu'une des parties, exemple, l'employeur peut y mettre fin unilatéralement, ben là, on n'est pas sûr à 100% c'est quand que le travail va se terminer. Est-ce qu'il va se terminer le 26 août? Est-ce qu'il va se terminer, pardon, une date avant ça? On ne sait pas. C'est incertain. Ça va jouer sur la date. Fait que ça fait en sorte que mon contrat de travail est à durée indéterminée. Car on ne sait pas pour certain, justement, comme je viens de te dire, là, si le contrat va durer jusqu'à la date inscrite ou pas. Finalement, j'ai un exemple. Je suis réceptionniste à un hôtel, puis il y a une clause dans mon contrat de travail qui établit que je peux mettre fin unilatéralement. Ben là, je ne vais pas terminer. Tu comprends, là, c'est complètement incertain.
Mais ouais, c'est
on
sûr,
le
ouais.
sait pas, là. Fait que ça, c'est vraiment un bon indice de si c'est un contrat de travail déterminé ou indéterminé. Dans ce cas-là, c'est indéterminé. En ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, ben, là, justement, on était dans la section travail déterminé, puis là, on le voit, il y a beaucoup d'exceptions. Mais là, je vais y aller d'une phrase simple. En ce qui concerne les contrats de travail indéterminés, ce sont tous les contrats qui ne sont pas à durée déterminée.
C'est ça, c'est l'exception des déterminés, là.
Donc, la grande majorité des contrats, comme vous pouvez le voir par nos exemples, ben, c'est des contrats qui sont à durée indéterminée. Donc, la relation de travail, ben, elle termine pas.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment tout plein de nuances, là. Donc, quand on dit que le salarié puis l'employeur peuvent y mettre fin en tout temps, là, c'est plein d'exemples. C'est vraiment du cas par cas. Donc, par exemple, là, admettons que je signe un nouveau contrat chaque année concernant comme des changements à mes conditions ou à ma rémunération. C'est encore indéterminé, là, parce que justement, même si on en signe un nouveau, ben, tu sais, on change la rémunération puis tout, là.
Ouais.
Puis, c'est aussi tous les emplois qui dont le contrat mentionne pas comme de date d'échéance. Là, c'est vraiment le cas le plus évident d'une durée indéterminée. Là, pardon. Là, donc, il y a pas de date, donc c'est indéterminé. Et c'est important de se rappeler aussi qu'un contrat de travail à durée déterminée, pardon, peut se transformer en contrat de travail à durée indéterminée. Je m'explique. Par exemple, si pour un contrat qui prend fin le 5 novembre, il y a un salarié qui reste en poste. Donc, admettons que c'est la période des fêtes. J'avais dit que je voulais partir parce que je voulais me concentrer sur mes examens, là, si on peut dire, ou quoi que ce soit. Mais finalement, je continue de rester. Puis que le 6 novembre, je me représente. Puis que même si c'était à durée déterminée, ça va devenir un contrat à durée indéterminée. Si justement, même mon employeur me voit que je suis encore là le 6 novembre, même si j'étais supposé partir le 5 novembre, là, ça va être un contrat à durée indéterminée à ce moment-là parce que je suis restée.
Ça, c'est toujours un exemple cocasse que je trouve. Là.
C'est
comme,
ça, c'est drôle.
J'ai terminé mon contrat déterminé. Tout est bien, tout est chill, mais je me repointe au travail. Puis là, mon employeur, il sait, mais mon contrat est terminé, mais je me repointe. Puis là, je me repointe la journée d'après. Puis je me repointe la journée d'après, malgré que mon contrat est terminé. Fait que là, ça fait que ça le transforme en indéterminé. En
ouais,
tout cas,
ça le transforme juste parce que je l'ai décidé. En tout cas, c'est vraiment un cas spécial. Donc, c'est sûr qu'il y a rien qui interdit de conclure plusieurs contrats de travail déterminés de suite. Là, c'est sûr qu'il faut être prudent de la manière de conclure les contrats parce que plusieurs renouvellements successifs peuvent à ce moment-là être considérés comme démontrant une volonté d'être libre à un contrat à durée indéterminée. Parce que tu sais, on fait plusieurs contrats déterminé, c'est un petit peu comme une
c'est comme ta relation,
une volonté là, de vouloir comme continuer puis comme que la date est vraiment incertaine parce que t'en mets comme plein de successifs là, donc
c'est ça, fait que la relation de travail elle demeure là, rendue là, fait que
ouais, c'est ça là, comme ta relation avec l'employeur, l'employeur-employé, elle reste là, fait que c'est vraiment plus une question de fait à ce moment-là. Donc, la qualification du contrat, là, comme on en parle, là, que ce soit à durée déterminée ou à indéterminée, c'est vraiment quelque chose de complexe. Là. Vous le voyez là, à quel point comme c'est des exceptions, puis c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est important, comme Max elle l'a dit, là, de regarder l'ensemble du contrat, l'ensemble des faits. C'est vraiment important. Là, puis c'est sûr que les conséquences vont découler de la nature du contrat. Là. Le contrat, c'est vraiment comme le cœur de toutes les relations de travail puis tout ça. Là. Donc, c'est sûr que ça peut découler d'une même situation, dépendamment du contrat. Donc, tu sais, juste par exemple, l'indemnité de fin d'emploi là, à verser, là, ça va être différente en fonction du type de contrat. Ouais. Là, donc, ça, c'est quand même quelque chose de le fun. Là, une indemnité de fin d'emploi, là, ça peut être assez nice à la fin. Là. Puis, admettons qu'un employeur veut mettre fin à ton contrat de travail à durée déterminée, ben là, si c'est pour une raison autre qu'un motif sérieux, faut qu'il verse au salarié une rémunération prévue jusqu'au terme prévu. Fait que ça, il est comme lié par son contrat, là. Fait que c'est tout ce qui est comme des modalités, la durée puis tout ça, c'est vraiment important de faire le point là-dessus pour garder tes droits. Donc, pour qu'un contrat soit à durée indéterminée, l'employeur doit seulement, si on reprend l'exemple justement comme de la rémunération, s'il veut justement mettre fin à ton contrat de travail, si c'est pour une durée indéterminée pour un contrat, là, l'employeur doit seulement verser une indemnité raisonnable. Donc, l'indemnité va vraiment varier entre si c'est à durée indéterminée ou à durée déterminée. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Là, on se revoit pour la prochaine.
En ce qui a trait à la troisième capsule pour le contrat de travail, on va vraiment plus s'attarder aux obligations du salarié et puis de l'employeur. Donc, en ce qui concerne les obligations du salarié, ils ont plusieurs obligations. Donc, il y a l'exécution personnelle, le devoir d'obéissance, la prudence, diligence, la loyauté, etc. En ce qui concerne l'exécution personnelle, le salarié doit exécuter le contenu de son travail. Son travail, genre, important. Donc, l'employeur, t'as employé toi. C'est donc toi qui vas devoir remplir les obligations que l'employeur te demande en vertu du contrat de travail. Exemple, il m'a engagé pour être un commis d'épicerie. Une de mes obligations est de venir au travail. C'est pas, si mettons, je peux pas me rendre au travail pour une raison X, ben, je peux pas dire, ah, ben, je peux pas venir au travail, mais ma sœur va venir me remplacer. Tu sais, je peux pas faire ça, là. C'est sûr qu'il y a des exceptions dans pour ce qui est du remplacement. Tu sais, c'est sûr qu'il y a, ouais. On va faire pause.
Ouais, mais de là à ce que ma sœur.
C'est ça, de là à ce que ma sœur s'en vienne puis me remplace. Bon, non. Le devoir d'obéissance, comme on l'a dit dans la capsule 1, c'est la subordination. Donc, dans le fond, qui est au cœur du pouvoir entre l'employeur et l'employé. Donc, dans le fond, l'employeur a le droit d'imposer des obligations à l'employé. Donc, l'employeur, en cas de manquement de l'employé au devoir d'obéissance, peut exercer son pouvoir disciplinaire en vue de punir l'employeur. Si, par exemple, j'étais censé, on me demande de faire, justement, comme on l'a dit dans la capsule 1, on me demande de faire l'inventaire, puis c'est dans mes tâches de travail, puis je le fais pas, je décide de désobéir à mon employeur, ben il peut me punir. Donc, c'est ça. Donc, il peut me punir, il peut me donner un avis écrit, il peut me suspendre à court terme, par exemple, si c'est pas la première fois que je le fais. En ce qui concerne le pouvoir de prudence et diligence, bon, prudence, ça veut dire de se conformer aux règles puis les lois relatives à la sécurité du travail. L'employé doit regarder à la lumière de la nature de son travail ou de la nature de son contrat, la qualité et la quantité, justement, qu'il devrait fournir au travail. Donc, l'employé, en faisant ses tâches, doit s'assurer que c'est vraiment ça qu'il doit faire, puis que c'est de qualité. Donc, comme vu précédemment, l'employeur peut demander de refaire des tâches s'il estime que c'est de mauvaise qualité. Donc, on l'a vu là dans les capsules précédentes, à un moment donné, je suis serveuse, puis je dois, mettons, essuyer les tables, puis je le fais pas ou je le fais d'une manière vraiment médiocre. Ben là, l'employeur peut me dire comme c'est laid comme travail, c'est comme clairement genre t'as pas fait ton best là, fait que refais-le. J'ai pas le choix de le faire. Tu sais, j'aurais dû fournir un travail de qualité, ce que j'ai pas fait. Sinon, une autre des obligations de l'employé, c'est la loyauté, la discrétion, la non-concurrence. Bon, l'intensité de l'obligation de loyauté, là, ça varie en fonction de la nature du travail ou du contrat. Donc, en fonction du poste occupé, justement. Donc, l'obligation de loyauté, c'est implicite à chaque contrat de travail, contrairement à l'obligation de non-concurrence qu'on va parler dans la capsule suivante. Elle n'a pas besoin d'être écrite. Donc, comparativement à l'obligation de concurrence qui doit l'être, ben, celle de loyauté, non. Donc, l'employé doit s'interdire un comportement qui est malhonnête à l'égard de l'employeur et de son entreprise. Donc, en ce qui a trait au conflit d'intérêts, il peut pas faire ça. Donc, par exemple, je suis une femme, je travaille auprès de mon employeur, puis mon mari, il travaille. Par exemple, il ne peut pas se placer dans une situation de conflit d'intérêts où on pourrait privilégier nos intérêts personnels à ceux de l'employeur. Exemple, je suis un employé de ABC Inc. Et puis, mon mari se porte une entreprise du même domaine que celle de l'entreprise à laquelle je travaille. J'ai accès à plusieurs informations, à des contrats, à des contacts. Je peux pas utiliser ces choses-là pour aider mon mari à partir de son entreprise. Là, ce serait complètement malhonnête. Ce serait à l'encontre de mon obligation de loyauté totalement. Il y a aussi, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il existe au contrat une clause de non-sollicitation. C'est des termes vraiment fancy, mais dans le fond, c'est pour dire qu'on empêche un ancien employé de solliciter les clients de l'ex-employeur sans toutefois restreindre le nouvel emploi de l'ancien employé. Bon, c'est des mots fancy, là. Je vais donner un exemple pour dire. Ouais, exemple, bon, je suis dans un salon de coiffure qui s'appelle La Belle Tignasse. Mm-hmm. Et des clients qui m'aiment beaucoup, là. Ils aiment beaucoup ma technique, ils m'aiment bien, ils aiment mon attitude, puis ils deviennent mes clients réguliers, mes clients, c'est mes regulars, là. Mm-hmm. J'ai décidé de passer à mon propre salon, donc je m'en vais de La Belle Tignasse. Puis parce que, mettons, exemple, je me suis fait renvoyer ou je m'en vais par mon propre gré, exemple. Je peux pas solliciter les clients qui m'aimaient full lorsque je travaillais à La Belle Tignasse. Tu sais, même si j'avais des habitués, même s'ils m'aimaient full, puis je peux pas dire, hey, venez à mon salon à la place de venir à La Belle Tignasse, j'ai déménagé. Ça, là, ça va à l'encontre de la clause de la clause de non-sollicitation s'il y en a une au contrat. Et puis, bon, il y a une certaine discrétion qui s'impose, donc, en ce qui concerne la protection d'informations confidentielles. Exemple, si. Genre, en ce cas-là, ça, c'est un exemple bizarre,
ça,
mais
c'est l'exemple à Marie-Lou.
Bon, secret commercial, c'est dans le thème du secret commercial. Si Bob l'éponge se fait renvoyer
vous
du crabe croustillant, si Bob l'éponge se fait renvoyer du crabe croustillant, ben, il pourra pas divulguer la recette secrète des pâtés de crabe, OK? Ça, non. Donc, ça se fait pas. Des obligations de loyauté puis de confidentialité que je viens de dire, bon, ça survit durant un délai raisonnable après la cessation du lien d'emploi, c'est sûr. Mais par exemple, c'est en tout temps lorsque ça réfère à l'information de la vie privée d'autrui. Là, c'est sûr que là, quand ça a trait vraiment de l'information personnelle sur la vie de quelqu'un, là, il n'y a pas une durée raisonnable ou whatever, ça dure vraiment tout le temps. Donc, de manière générale, par exemple, ce ne sera pas toute la vie qu'un ex-employé ou whatever va pas pouvoir divulguer des informations. Donc, c'est ça. Donc, c'est après un délai raisonnable, l'obligation de loyauté va s'effriter avec le temps. Bien évidemment, bon, les circonstances qui entourent ton temps dans l'entreprise, notamment bon, le nombre d'années de travail, ton poste, ta relation avec l'entreprise, la gravité des secrets commerciaux, mm-hmm. bon, c'est pris en compte pour calculer la durée du délai.
Oui, c'est sûr. Parfait. Donc, pour ce qui est de l'obligation de l'employeur, ça, c'est quelque chose qui est vraiment comme le fun parce que nous, quand on est employé puis que notre employeur nous demande de faire quelque chose puis qu'on n'est pas trop certain, ben là, vous allez vraiment savoir si c'est le cas. Donc, pour ce qui est des obligations relatives au travail, ben il y a bien évidemment la fourniture du travail. Donc, permettre l'exécution du travail. L'employeur, faut se rappeler qu'il fait pas juste donner un emploi à son employé. Il donne aussi une opportunité de réalisation personnelle, de valorisation. Wow. Tu sais, comme moi, je pense à, tu sais, quand tu vas à Disney, là, les personnes qui sont déguisées en prince puis en princesse, là, tu sais, il faut quand même qu'il y ait un petite attitude qui va avec, là. Faut quand même qu'ils aiment leur job pour pouvoir vendre puis tout ça là. Fait que c'est dans la plupart du temps tu vas dans un emploi parce que t'aimes ça là. Donc l'employeur doit aussi ajuster le lieu ou l'environnement de travail en conséquence pour que tu puisses exécuter ton emploi. Donc admettons rendre les outils puis les équipements disponibles à la réalisation de ton emploi. Donc admettons que je travaille dans la construction, c'est pas moi qui vais acheter mes pelles, là. C'est pas moi qui vais acheter toutes les pelles mécaniques puis tout ça là, c'est vraiment l'employeur qui va le mettre à ma disposition puis tous les gros chars et tout ça là. Donc c'est une obligation qui implique aussi qu'il doit pas faire obstacle à l'exécution du travail de l'employé. Donc faut évidemment aussi que l'employeur il paie la rémunération en contrepartie de la prestation, donc du travail de l'employé. Puis là, Max, tu m'as appris un petit concept qui s'appelle no work, no pay.
Yes, no donc, work, no pay.
Ouais. Donc, c'est ça, c'est le principe là qui reflète ce que je viens de dire. Là. Admettons que je suis une employée qui arrive en retard de 30 minutes sans raison valable. Ben, c'est sûr que l'employeur, il va pas me payer pour ces 30 minutes-là. Là. C'est de ma faute. Là. No work, no pay. Là. Fait que pour 30 minutes, là, je suis pas payée. Là. Puis, on l'a entendu souvent dans la pandémie, là. Mais il y a eu plusieurs mises à pied. Oui, mises à pied, là. Ça, c'est important qu'il faut utiliser les bons termes ici, là. C'est un arrêt de travail temporaire, là. On va en discuter un peu plus dans la dernière capsule sur le contrat de travail. Mais, c'est ça. Il y a eu plusieurs mises à pied durant la pandémie. Donc, l'employeur sera pas tenu de payer ses salariés parce que, justement,
il... No work, no pay.
Exactement. Donc, Max, toi, tu m'as dit que ta mère est dans un hôtel, là, tu sais, elle travaille comme dans l'industrie du tourisme, c'est ça, là. Puis, admettons qu'elle est mise à pied parce qu'il n'y avait pas de tourisme,
ben l'employeur il va pas la payer, il y a pas de tourisme, donc comme tu dis,
no work no pay.
Exactement. Donc pour une autre obligation de l'employeur, il y a aussi la protection et l'intégrité et la dignité du salarié. Pour ce qui est de la dignité, en fait, l'employeur doit vraiment s'abstenir de porter atteinte à la dignité de l'employé et en plus de le protéger contre toutes les formes de harcèlement, donc ça inclut aussi l'intimidation. Il doit vraiment s'assurer que l'employé est bien dans son travail là. Mais ça aussi, en fait, le harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui est complexe. On voulait vraiment s'attarder avec une capsule pour vraiment développer, pour plus vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en milieu de travail. Et là, il y a aussi quelque chose de vraiment important d'une des obligations de l'employeur, c'est au niveau de sa responsabilité civile. Donc ça, moi, ça me rappelle des beaux souvenirs de responsabilité. Ça doit t'en rappeler aussi.
C'est un cours
là
que vous voulez pas avoir.
Ah ouais, vous voulez vraiment pas avoir ça. Ça me rappelle des souvenirs de première année là. Donc on a vu en fait que l'employeur, il va avoir sa responsabilité engagée. Donc vraiment l'employeur, si dans le cadre de ses fonctions, un des employés là, donc l'employé dans le cadre de ses fonctions, il commet un, là je vais dire un terme, là, un acte fautif qui cause un préjudice à un tiers. Ça là, vous avez, c'est tel que tel, vous êtes pas obligé de comprendre tout ça là. Un exemple, ça va vraiment vous aider pour ça. Donc en fait, si le département des loisirs d'une municipalité là, par exemple, engage des animateurs de camp de jour, s'il y en a un qui, dans le cadre d'une activité de bricolage, admettons là, il laisse un des enfants sans surveillance et que les enfants finissent par manger de la colle chimique, là, ce qui est vraiment pas nice.
C'est pas souhaitable.
Non, c'est vraiment pas souhaitable. Là. Ben ça pourrait constituer un acte fautif étant donné qu'il y a comme il était pas surveillé l'enfant, puis c'était vraiment la job de l'animateur. Donc là, par les agissements de l'animateur de 15 jours, il y a eu un préjudice parce que l'enfant, ben il va sûrement pas bien filer après avoir mangé de la colle. C'est à ce moment-là, c'est la municipalité qui verra sa responsabilité engagée parce que c'est l'employé, en fait, c'est l'employeur de l'animateur. Donc, c'est vraiment dans les fonctions de l'employé. S'il commet un acte fautif puis que justement, il y a un problème qui survient par rapport à ça, c'est l'employeur qui va être responsable. Puis c'est lui aussi qui va être tenu de réparer le dommage ainsi causé. Donc, merci beaucoup de nous avoir encore écoutés et on se dit à la prochaine. Donc, pour ce qui est de la capsule 4, on va parler ici de la clause de non-concurrence. Donc, on vous a dit dans la capsule 3 un peu là qu'on allait en discuter plus amplement parce que c'est vraiment un gros morceau là du contrat de travail. Là, puis je sais à quel point t'aimes les contrats de travail.
Ah, j'adore ça.
Donc, c'est vraiment un gros morceau là. Donc, on voulait vraiment s'y attarder plus précisément ici. Donc, comme on en a parlé, on a vu qu'il y avait certaines obligations qui existaient pour le salarié. Donc, une des obligations qui peut aussi s'ajouter, c'est elle de la clause de non-concurrence. Et c'est toutefois pas implicite, ça doit être écrit. Donc, ça, c'est vraiment important, là, ce genre de clause-là. Ça peut pas juste être... quand on dit implicite, c'est quand si c'est pas marqué, faut pas que l'employeur dise comme « Ah, ben là, t'étais supposé le savoir. » Non, non, non. C'est supposé être écrit, c'est supposé être clair. Donc, c'est instauré dans le contrat pour protéger les intérêts de son employeur parce qu'il veut pas que ses employés lui fassent concurrence. Donc, ça, on va un petit peu plus en parler amplement, là. Donc, il faut s'assurer que les clauses de non-concurrence soient valides puis qu'ils respectent les conditions prévues dans la loi. Tu sais, la loi, là, on est en droit, là, on va vous le dire, là, c'est vraiment comme le fil conducteur, c'est le guide de pas mal tous les contrats. Là, s'il y a un contrat qui est pas valide en vertu de la loi, là, ben on va pouvoir l'invalider. Là. Donc, mais admettons justement que la clause là est vraiment bien écrite, elle est valide et tout ça. Là, c'est une clause qui veut être très très contraignante, considérant qu'elle veut empêcher des gens de travailler. Donc, tu sais, ça empêche les gens de travailler. Donc, ça vous donne une ordre de grandeur sur le niveau de contrainte que cette clause-là
engendre
ouais. Exactement. Donc, dans ce cas-là, c'est à l'employeur de démontrer sa validité. C'est vraiment comme une règle de preuve. Là. C'est son fardeau, c'est sur ses épaules qui va... En fait, c'est l'employeur qui va devoir démontrer que la clause, elle est valide si, justement, elle est contestée. Donc, pour ce qui est des conditions de validité d'une clause de non-concurrence, c'est des conditions qui sont cumulatives, en sens que elles doivent être... En fait, toutes les conditions doivent être respectées en totalité pour que la clause soit valide. Donc, c'est vraiment, c'est comme une liste d'épicerie, on coche, puis si tout est là, ben là, elle est valide. Donc, pour la première condition de validité, la clause doit être écrite. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas quelque chose d'implicite. Elle peut pas être verbale, là. Ça peut pas être amené dans la salle des employés, mon employeur qui me dit « Ah oh, ouais, je vais te faire une petite clause de non-concurrence, là. »
By the way.
Ouais, c'est ça. Elle est pas au contrat, mais c'est entre nous deux, là. Puis, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Non. Elle doit vraiment être écrite et claire. Et justement, la clause, elle doit être formulée en termes express. Express, c'est ce qu'on veut dire par là, c'est que justement, elle doit être claire. Ça, il peut pas avoir une ambiguïté, là. S'il y a une ambiguïté, après la clause, là, littéralement la clause de non-concurrence, là, après déclarée illégale puis supprimée en totalité du contrat. Ça, là, c'est vraiment pas ce que l'employeur veut, là, parce que lui, il veut vraiment s'assurer que l'employé soit contraint de ne pas lui faire concurrence. Donc, c'est clair qu'il va s'assurer qu'elle soit très claire, vraiment aucune ambiguïté possible. Et en plus, s'il y a ambiguïté, elle serait même pas modifiable. C'est pas comme si on pouvait dire comme, OK, c'est bon, étant ambigu, là, on va juste comme modifier 2-3 mots, là, parce que là, ça va être plus clair. Non. On la supprime littéralement du contrat. Pour la troisième condition de validité, elle doit être limitée dans le temps. Donc, ça peut pas être une clause qui serait indéfinie. Je peux pas, là, c'est illégal, là. Je peux pas comme demander à mon employé de ne pas me faire concurrence jusqu'à la fin des temps. Là. C'est vraiment, ça doit être défini dans un délai et pas juste un délai quelconque. Là. On parle d'un délai raisonnable. Là. Donc ici, en fait, c'est un jeu de jurisprudence. Là. C'est vraiment comme plein de jugements là, qui viennent établir c'est quoi un délai raisonnable. Là. C'est rarement établi dans la loi. Là. On parle plus comme d'un délai entre 12 et 18 mois, dépendamment des domaines d'activité, bien entendu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est qu'admettons que je travaille depuis un an à un poste de haut dirigeant dans une compagnie, ben là, le délai d'obligation de mon concurrence va se rapprocher du 18 mois, là, parce que mon poste, il est haut, là. Donc, je vais savoir des affaires pas mal plus importantes et secrètes, si on peut dire, que le petit caissier qui, lui, on lui dit jamais rien. Pour ce qui est de la quatrième condition de validité, la clause, elle doit être limitée dans un lieu également. En sens que la clause, elle doit limiter l'espace dans lequel est appliquée, en fait. Donc, on considère que elle peut pas être plus large que le lieu où l'entreprise exerce ses fonctions. Tu sais, admettons là que j'ai une entreprise qui œuvre juste à Montréal, la clause, elle peut pas être plus large que le rayon de Montréal. Tu sais, on est juste à Montréal. Tu peux pas aller plus loin que ça. Dans cet exemple-là, je pourrais pas comme empêcher une personne de travailler, un ancien employé de travailler à Québec, même si c'était genre dans le même domaine, parce que y a pas de concurrence. C'est ma business est juste à Montréal, là, donc je peux pas l'empêcher d'aller comme à Québec. Là. Ce serait pas valide comme clause. Mais par contre, si l'employeur n'exerce qu'à Sherbrooke, je pourrais pas exercer à Sherbrooke. Tu sais, ce serait comme une bonne limite, là. Ce serait valide.
C'est évident.
Ouais. Si, admettons, mais par contre, s'il prévoit comme étendre sa compagnie à Trois-Rivières, hein, ça, c'est un cas d'essence assez spécial, là, mais qu'il a pas encore fait, il peut pas ajouter celui-là dans la clause de non-concurrence, là. Il peut pas comme juste ajouter un lieu de même, là. C'est l'employeur qui va devoir refaire la clause au complet, là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais si l'entreprise couvre un plus grand territoire?
C'est la question à 500$. Là.
Ah oui, hein, c'est vraiment une très bonne question. Je me la suis posée, là. Donc, l'employeur, il peut pas juste empêcher de faire concurrence partout, là. Il doit cibler des territoires de manière raisonnable. Tu peux pas, comme, aller jusqu'ailleurs, là, de l'entreprise où est-ce qu'elle exerce, là. Donc, comme pour mon exemple de Montréal. Donc, tu sais, il veut protéger les intérêts de son entreprise, mais il est pas obligé d'aller jusqu'à Chibougamau pour les protéger, là. Donc, il doit vraiment restreindre son territoire.
Et pour ce qui est du cinquième critère de la clause de non-concurrence, cette dernière doit être limitée quant au type d'activité. Donc, par exemple, si on a un directeur en marketing, on peut pas l'empêcher de travailler. On peut l'empêcher de travailler, par exemple, dans son concurrence qui entrait au marketing, mais on ne peut pas l'empêcher de travailler dans un autre domaine de la compagnie, comme par exemple, il se recycle qu'en entretien ménager. Mais là, la clause de non-concurrence, elle aura pas rapport parce que c'est pas le même type d'activité. Donc ça, c'est ce qui conclut les critères. Mais pourquoi toutes ces conditions doivent être respectées? Ça aussi, c'est une bonne question. Ben, la clause doit seulement protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Donc, c'est pour cela que la clause doit respecter toutes les conditions. Car autrement, si la durée était trop grande, par exemple, ou que le domaine n'était pas le même que celui de l'entreprise, on protégerait pas les intérêts légitimes et la clause serait considérée invalide. Une clause qui est invalide est retirée du contrat et non modifiable, comme Marie-Lou l'a dit, d'où l'importance de bien rédiger une clause de non-concurrence. Par exemple, une clause qui a une durée abusive peut pas être modifiée par le juge pour la rendre raisonnable. La clause sera tout simplement retirée du contrat. Les effets de la clause de non-concurrence maintenant. Bon, généralement, la clause de non-concurrence va s'appliquer lorsque, 1, l'employeur a un motif sérieux pour mettre fin au contrat de travail, ce qui sera traité lors d'une prochaine capsule, ou 2, en cas de démission par le salarié. La clause de non-concurrence va pas s'appliquer lorsque l'employeur, bon, il met fin au contrat de travail sans motif sérieux, ou lorsqu'il s'agit d'un congédiement déguisé, en ce sens que le salarié quitte son emploi en raison du comportement de l'employeur. Congédiement déguisé, c'est une notion quand même vraiment importante. Exemple, bon, si ça vous est déjà arrivé, bon, c'est pas l'idéal parce
c'est
que
c'est vraiment touché.
C'est vraiment touché,
principe.
Mais c'est un concept qui est vraiment important parce que c'est comme Marie-Lou l'a dit, c'est touché.
C'est donc, sneaky.
C'est un sneaky move de l'employeur. Donc, exemple, l'employeur aime pas son salarié, il décide de lui rendre la vie dure en lui donnant des tâches qu'il aime pas, en donnant des heures de soir, en sachant par exemple que la personne elle a une famille, puis tu sais que ça a été mentionné, exemple, oh, je veux voir ma famille, je veux passer du temps avec. Exemple, lui il dit tout bas, tu sais, je lui donne des heures de soir, il dit pas bonjour
intentionnellement
exemple.
Là.
C'est ça. Donc, puis l'employeur. Ça fait en sorte que l'employeur, s'il lui fait la vie dure, ben l'employé peut décider de démissionner à cause de ses comportements. Mais c'est pas tant une démission, tu sais, qui était faite de plein gré, par exemple, parce qu'on va se rendre compte que le congédiement, il était déguisé. Donc, c'est l'employeur qui a voulu le congédier, mais de manière un peu sneaky, comme on a dit, en lui imposant des conditions pas nice. Fait que dans ce cas-là, il peut pas dire « Ah, by the way, t'as une clause de non-concurrence qui t'est applicable, fait que tu peux pas faire ça, pis ça, pis ça dans telle entreprise. » Non. Parce que la clause de non-concurrence, pardon, va pas s'appliquer à lui. Donc ça, c'est des considérations vraiment à prendre. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui termine notre capsule sur la clause de non-concurrence. Restez à l'affût pour la prochaine. De ce qui concerne le contrat de travail, on va parler de la fin du contrat de travail. Donc, il existe plusieurs façons de mettre fin au contrat de travail. Ça va dépendre des circonstances, entre autres, de la nature disciplinaire ou non disciplinaire de la décision de mettre fin au contrat de travail. on va vous l'expliquer à l'instant ce que ça veut dire disciplinaire, non disciplinaire. La nature disciplinaire, donc, c'est à la suite d'un comportement fautif du salarié qui va à l'encontre des règles de bonne conduite. Puis c'est vraiment dans le but de punir. Donc, l'employeur peut mettre, par exemple, peut suspendre, peut faire un avis écrit, par exemple. Puis de nature non disciplinaire, c'est ce qui ne résulte pas de la faute de l'employé. Exemple, maladie, restructuration d'entreprise, etc. Donc, qu'est-ce qui peut mettre fin au contrat de travail? La démission. Donc, c'est un acte unilatéral à l'initiative du salarié.
Unilatéral, ça veut dire quoi par rapport à ça?
Unilatéral, c'est que c'est le salarié qui décide lui-même de quitter.
OK, juste de son bord, dans le fond.
De son bord, exactement. Donc, ça n'a pas besoin d'être accepté par l'employeur. Ça n'a pas besoin d'être écrit. Ça peut être dit verbalement, genre, Marie-Lou, je démissionne. Ben, si Marie-Lou, c'est mon boss.
Ouais, c'est ça.
Pas juste dans le vide. Il y a des conditions de validité qui comprend un aspect objectif et subjectif. L'aspect objectif, c'est vraiment comme un courriel, une lettre, une rencontre de cédulé pour la démission. Et puis, l'aspect subjectif, c'est vraiment l'intention de démissionner du salarié. Ça ne doit pas résulter d'un excès de colère soudain. Genre, je demande à mon employeur de terminer plus tard cette semaine pour aller voir une pièce de théâtre de ma fille, puis là, il dit non. Mais là, je ne peux pas arriver dans son bureau full explosif puis dire en colère, OK, là, je veux démissionner, tu m'as jamais aimé, j'ai jamais aimé cet emploi, puis là, dis storm in his office.
Il se défoule.
Me défoule. Ben là, cette démission-là ne va pas être valide parce que clairement, c'est comme, étant donné l'intention de démissionner, c'était altéré par la colère.
Ouais, c'est comme out of the blue. Là.
Je l'ai pas vraiment voulu. Mm-hmm. À moins que je l'ai voulu, mais là, mettons, c'est ça a rapport avec une pièce de théâtre de ma fille que j'ai pas pu voir. C'est là, c'est sûr que c'était l'excès de colère. Mm-hmm. Fait que ça, c'est ce qui entraîne la démission. Donc, il faut vraiment laisser un préavis à la fin de l'emploi. Donc, ça, c'est important lorsqu'on démissionne. Donc, le délai du préavis doit être raisonnable et tenir compte notamment de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles on a exercé l'emploi, la durée pour laquelle l'employeur a travaillé à cet emploi. Donc, l'employeur, je veux dire l'employé. Donc, la durée pour laquelle l'employé a travaillé à cet emploi. Donc, si c'est un salarié qui veut démissionner, le délai va pouvoir varier d'une semaine à un mois en général. Donc, si j'avais un poste full important, mais là, c'est sûr que le délai va être pas mal plus grand là, parce que c'est tough combler mon emploi. Donc, il y a une différence importante entre les notions de cessation du lien d'emploi, congédiement, licenciement, mise à pied, rétrogradation qu'on va expliquer à partir de maintenant. Donc, la cessation du lien d'emploi, ça découle de l'initiative de l'employeur ou du salarié. Puis c'est vraiment un terme général, générique, qui inclut la démission, le congédiement, le licenciement. Donc, ça se peut que dans les capsules, on va utiliser, mettons, cessation du lien d'emploi, mais c'est juste pour dire que l'emploi est terminé.
Okay,
c'est un mot fancy pour dire ça. le congédiement, là, on a parlé de démission, là, on va parler de congédiement. Le congédiement, c'est une décision unilatérale. Donc,
fancy.
Prise par l'employeur. Donc, ça résulte d'une décision disciplinaire. Comme on l'a dit plus tôt, disciplinaire, c'est qu'il découle d'un manquement volontaire ou contraire à ce qu'un salarié prudent et diligent serait censé faire dans les circonstances. Bref, genre, ça résulte d'une punition, exemple. Tu sais, ça doit découler d'un motif sérieux, donc c'est-à-dire un motif qui est lié à la personne du salarié, généralement, bon, une faute commise par celui-ci. Et le congédiement en tant que sanction doit être approprié également.
En droit du travail, le congédiement, c'est comme considéré comme la peine de mort, OK? En droit du travail, c'est pas nice.
Ouais, ça a pas la baisse, là.
C'est la sanction ultime. Donc, il convient de s'assurer qu'il est bel et bien question d'un motif sérieux et que le congédiement constitue une sanction proportionnellement appropriée dans les circonstances. Exemple, j'ai été congédié à la suite d'un vol, d'une fraude, d'une absence injustifiée. Je peux pas me faire congédier, par exemple, parce que je suis arrivé en retard 30 minutes une fois. Il faut vraiment que ce soit un motif sérieux, comme par exemple, comme j'ai dit, vol, fraude, absence injustifiée, comme plusieurs fois.
Ouais, là, tu l'as mérité. Là.
Ouais, je l'ai mérité. Pour ce qui est du délai de préavis, on va tenir compte de l'âge du salarié. Donc, s'il est plus âgé, par exemple, on va avoir droit à un délai de préavis plus long. Parce que si, par exemple, je suis une personne de 50 ans qui vient de se faire congédier, ben, tu sais, c'est poche, mais c'est la vie. Ça se peut que c'est pas toutes les compagnies, les entreprises qui veulent un salarié de 50 ans qui s'en vienne. T'sais. Fait que c'est sûr que là, au niveau du temps, ben là, l'employeur va me devoir, quand il va me congédier, va devoir me donner un plus long préavis. On va tenir également compte du poste occupé dans l'entreprise puis des années de service.
Donc, ça, c'était le congédiement, là. Donc, c'était vraiment comme ça résultait d'une décision disciplinaire. Pour ce qui est maintenant du licenciement, c'est la même chose. C'est encore une décision prise par l'employeur, mais là, ça résulte d'une décision non disciplinaire, contrairement au congédiement. Donc, par exemple, admettons que la compagnie est en restructuration, là. Donc, on bouge un petit peu l'administration et tout ça. Admettons même que la compagnie ferme complètement. Donc, c'est vraiment pas de la faute de l'employé. Et même si l'employé, il tombe malade, là, c'est pas de sa faute à l'employé s'il est tombé malade, ben là, il va pas être congédié, il va être licencié. Ça va être une décision non disciplinaire à ce moment-là. Comme Max a le dit, pour le délai de préavis, ça va être pas mal la même chose. On va tenir compte de certains éléments. Donc, premièrement, l'âge du salarié pour ce que tu viens de dire, en fait, là, parce que quand t'es plus âgé, ben, t'as moins de chances de te faire réembaucher du poste que t'as occupé dans l'entreprise, puis des années de service. Puis là, des vagues de licenciement, on a vu beaucoup à cause de la COVID qu'on est en plein dedans en ce moment, là. Donc, dans le cadre de la pandémie, il y a plusieurs entreprises qui ont fermé, puis il y a des salariés qui ont perdu leur emploi sans que ce soit de leur faute, là. Ça peut pas être une décision non disciplinaire parce que c'était pas de leur faute, là, qu'ils ont perdu leur emploi, là. C'était la pandémie, là. C'est tout a fermé, là.
Tu veux dire, ça peut pas être une décision disciplinaire.
J'ai dit non disciplinaire?
J'ai dit non disciplinaire.
Ah, une chance, t'es là, hein. Tu me ramènes à l'ordre, là. Exactement, là. C'était pas disciplinaire. Donc, il s'agit à ce moment-là d'un licenciement. On a aussi parlé dans une autre capsule de la mise à pied. Là, on va en parler un peu plus. C'est pas une cessation du lien d'emploi. Ça, c'est vraiment important à s'en rappeler, là. C'est une suspension temporaire du travail. Tu le gardes, ton travail, là. C'est juste que tu peux pas l'exercer, là. C'est encore comme le licenciement, ça résulte d'une décision non disciplinaire, là, parce que, en fait, tu restes à l'emploi, tu te fais pas congédier, là, tu te fais pas mettre à la porte, là. Tu restes avec ton employeur, tu gardes le lien d'emploi. Donc, c'est souvent pour des raisons d'organisation interne, économique ou technique de l'entreprise, là. Ça dépend vraiment comme des circonstances. Donc, admettons que l'entreprise a perdu un contrat puis qu'il n'y a plus de travail à te faire réaliser parce que comme ce contrat-là, tu dépendais de ça, là. Ben là, t'as pas de job, là. Tu peux pas, comme à cause de cette perte du contrôle-là, tu peux pas travailler, donc t'es mis à pied. Là, ce sera pas un licenciement à ce moment-là. Et un autre exemple, c'est que si l'entreprise éprouve des difficultés financières, ben il va pouvoir mettre à pied parce qu'il peut pas comme payer tout ça. Tu vas rester avec l'entreprise, là, tu gardes un emploi, mais il va mettre à pied des employés en attendant de reprendre un petit peu, comme de sortir la tête de l'eau, là, puis de reprendre le cours normal des affaires, là. Et en dernier lieu, pour la rétrogradation. Là, ça, c'est un petit peu plus sketchy, là. On parle ici de changement de poste ou de diminution des responsabilités. Comme là, c'est plus c'est pas la quantité ou quoi que ce soit, là, c'est plus au niveau hiérarchique, là. Admettons, là, c'est habituellement, là, c'est plus une mesure administrative, donc comme on l'a dit tantôt, non disciplinaire. C'est pas la faute du salarié dans la plupart des cas, là, mais c'est un des exemples classique qui arrive tout le temps, là, c'est qu'admettons que j'ai un accident puis que je peux plus soulever comme des boîtes lourdes. Là, je suis dans une usine, là, et je ne suis plus capable de soulever des boîtes lourdes. Ben, si c'était vraiment lié à ma tâche, c'était ma prestation, c'était dans mon contrat de travail que je devais soulever des boîtes lourdes, puis que là, à cause de mon accident, je ne suis plus capable, j'ai développé une tendinite ou quoi que ce soit, ben là, mon employeur, si je suis plus capable de lever les boîtes, il va pouvoir m'assigner à un autre poste. Il va pouvoir me rétrograder à m'envoyer à un travail qui a des responsabilités moindres, mais uniquement du fait que je ne suis plus capable de remplir ma tâche, là. Donc, c'est vraiment juste à cause de ça qu'il va pouvoir me rétrograder, là. Juste parce que je ne suis plus capable de soulever les boîtes, là. À ce moment-là, peut-être que je vais pouvoir faire un autre job comme, je sais pas moi, coller des étampes, là, ou des choses comme ça, donc comme dans une usine ou quoi que ce soit, là. Et là, c'est vraiment important ici de ne pas confondre avec le congédiement déguisé. Ça, on a parlé dans la capsule précédente. C'est une pratique qui est interdite de cessation du lien d'emploi comme à l'initiative de l'employeur parce qu'il décide justement comme de lui donner des prestations vraiment pas le fun, des conditions vraiment pas le bon non plus. Donc, c'est vraiment c'est caché sous des faux motifs, là. Ça, on en avait parlé dans l'autre capsule, justement, quand l'employeur, il aimait pas son salarié puis qu'il décidait de lui rendre la vie dure, là, puis qu'il donnait des heures de soir, même s'il y avait des enfants puis qu'il voulait les avoir le soir. Puis là, puis c'est l'employé qui a décidé de démissionner, là. Ça, moi, c'est toujours un concept qui m'a vraiment, comme, fait bizarre, là. C'est que c'est l'employé qui, c'est quand même l'employé qui décide de démissionner, là. C'est lui-même, là. C'est de sa propre personne qui a décidé par ça, mais, ouais, mais c'est ça, quand même déguisé, là.
C'est un congédiement qui est déguisé.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment space, là. Moi, j'y trouve. Quand tu m'as parlé de ça, je trouvais ça vraiment spécial, là. Mais en tout cas, le fait qu'il l'a mis dans des conditions moindres.
Fait que le congédiement déguisé, dans le fond, faut vraiment pas le mêler avec le concept de rétrogradation. T'sais, quand on rétrograde un employé, souvent, c'est pour son bien ou c'est vraiment comme une mesure qui est correcte au sein d'une entreprise, alors qu'un congédiement déguisé, c'est vraiment comme c'est illégal. On peut pas faire ça.
Donc, c'est ça qui mettait fin au contrat de travail. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se dit à une prochaine capsule.